Vous écoutez France Culture. Antoine Garapon rencontre Stéphane Brière. Ce soir, lire pour imaginer les vies qu'on juge.
Stéphane Brière, bonsoir et merci de nous recevoir ici dans votre séjour parisien. Vous habitez Cambridge aux États-Unis, vous habitez Boston.
Oui, mais aussi à Washington, c'est les deux maintenant.
C'est ça, parce que...
Plaisir, Antoine, d'être ici.
Où est-ce que vous êtes juge à la Cour suprême et donc oui. Vous devez partager votre temps entre Boston, où vous étiez professeur à Harvard, et Washington, bien sûr, le siège de la Cour suprême. Vous nous disiez, lors du premier entretien, que vous avez découvert la France en 1956, et vous l'avez découvert à travers la famille Martin à Besançon, mais vous l'avez aussi découvert la France, j'allais dire l'âme française, à travers Marcel Proust, que vous avez lu, et relu même, Stephen Breyer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où est venu cet intérêt pour la littérature française? Et commençons par Proust.
Oui, vous avez eu raison, j'étais à Besançon avec Jacques et Michel, étaient le nom des enfants dans ce pays, et il y avait une sœur aussi. Mais je reviens en France en 1963 pour un été où j'ai fait un stage à Cleary Gottlieb.
Oui, à ces moments, grand cabinet d'avocats.
Oui, oui. À ces moments, les cabinets américains n'avait pas beaucoup à faire, je dirais. C'était une paradis aussi. Il y avait des pâtisseries, il y avait des cafés. Chaque 2 heures, on trouvait un excellent endroit pour aller au déjeuner, etc. Mais en tout cas, je voudrais améliorer mon français. Donc j'ai commencé à lire Proust et je ferai des listes vocabulaires. Et chaque soir, je ferai un effort d'apprendre par cœur les mots sur la liste. Et après un certain temps, c'était plus facile. Aubépine, par exemple. Aubépine, qu'est-ce que c'est que l'aubépine? C'est Hawthorne. Oui, et il me fallait peut-être 5 ou 6 ou 10 fois avant que je l'apprenne, mais enfin...
Et vous regardez encore ce cahier de vocabulaire, ces fiches?
Non, je les ai perdues. Maintenant, je suis plus patiente avec beaucoup des fautes.
Mais par contre, vous n'avez pas abandonné Proust?
Non, pas du tout. Parce que je lis, et après, enfin, je suis à la fin, et je relis. Parce que vraiment, c'est une histoire d'une jeune personne qui veut trouver dans la vie quelque chose qui est vraiment valable. Et enfin, à la fin, il découvre que la seule chose qu'il veut faire, c'est d'écrire. Donc, le grande œuvre, c'est son travail. C'est son travail. Il travaille de son vie par le mettre dans une forme d'écriture, de forme d'art.
C'est ça. Et vous dites, cette phrase quand même qui est particulièrement forte, vous dites « Proust est le Shakespeare du monde intérieur ». Dans un article que vous avez, un entretien que vous avez publié dans la Revue des Deux Mondes récemment.
Ce que j'y ai pensé est qu'on dit de Shakespeare, un grand professeur Kittredge a dit de Shakespeare, Shakespeare, il connaît chaque espèce de personne dans le monde. Il connaît exactement comment ils vont agir mieux que eux. Et il le peint dans les tableaux, dans les pièces. Et tout cela, toutes ces expressions, tout le drama de la vie, il le fait en poésie. Incroyable. Mieux que les personnes pourraient le dire. Même Proust. Mais Proust, il a une mémoire. Il a une mémoire intérieure, peut-être mieux que personne. Il se souvient de chaque sentiment, peut-être de chaque mot, mais aussi comment on sent les situations différentes à différents âges, à différentes places. Il se souvient de tous. Il peut les exprimer parfaitement pour que le lecteur peut sympathiser ou comprendre comment il les aperçoit. Et ils mettent tout cela dans une poésie, une forme de poésie.
C'est-à-dire que c'est à la fois une transcription, une description de la vie et aussi une transfiguration de la vie, puisqu'il fait de la vie une œuvre d'art.
Mais comme Shakespeare, il connaît toutes les situations différentes, mais ils sont, à la différence de Shakespeare, ils ne sont pas toutes les personnes différentes. Il y en a beaucoup de personnes différentes, mais aussi c'est les situations différentes dans l'intérieur qu'on peut expérimenter. Mais, sauf, je dirais, les enfants.
C'est ça,
parce qu'il n'avait jamais des enfants. Il ne connaît pas la joie d'être père. Mais si vous voulez en lire, il faut lire Victor Hugo.
Oui.
Et maintenant, c'est l'art d'être grand-père. Parfait.
Et ça vous parle à vous, Stephen
oui,
Breyer.
Oui, certainement. Il adore ses petits-enfants. Et c'est la situation de chaque grand-père. La perfection. La perfection.
Mais il y a une personne dont vous parlez beaucoup, et c'est assez singulier, c'est la figure d'Odette.
Ah, d'Odette, parce que pour moi, c'est un exemple peut-être de qu'est-ce qu'il trouve Swann en Odette. À le lire, je ne sais pas parce qu'on ne peut pas voir Odette. Mais il y avait un excellent film avec... comment s'appelle-t-il? Un excellent film de recherche du temps perdu. John Malkovich, Baron Cholus, très très bien. Mais en tout cas, Odette, est-ce qu'elle est belle? Je ne suis pas certain. Non, je crois que non. Mais est-ce qu'elle est intelligente? Pas du tout. Est-ce qu'elle a du charme ou est-ce qu'il y a un certain esprit? Je ne le trouve pas. Mais qu'est-ce qui voit en elle, Swann? Quoi? Exactement quoi? Elle n'est pas très sensible. Swann, c'est raffiné. Raffiné. Mais ce qu'il trouve, je crois, c'est qu'elle l'a transformée elle-même en œuvre d'art, avec ses vêtements, avec cet appartement, avec même le parapluie, et ça, il y a moyen de porter...
l'ombrelle.
Oui, l'ombrelle, et dans les roues. Et exactement sa manière d'être, c'est une œuvre d'art. Et Swann est connaisseur des œuvres d'art.
Est-ce que ce n'est pas le mystère de l'attachement humain, tout simplement?
Oui. Mais oui, exactement. Mais ce n'est pas vrai qu'elle est rien. Elle est quelque chose de valable. Et donc, les choses comme a dit Alain Besançon, il a écrit un excellent article pourquoi est-ce que nous lisons Proust. Il mélange le snobisme, est une caractéristique malheureusement universelle. Mais aussi, il trouve l'amour mélangé avec un désir de possession. Le bon et le mauvais. Donc, il nous fascine parce que vraiment, il y a une certaine vérité en tout ça.
Et est-ce que ça serait trop audacieux de dire qu'il y a peut-être un parallèle entre ce travail de l'écrivain qui doit restituer la vie et donc la décrire, et en la décrivant, qui la transforme en une œuvre d'art, qui confère à ces personnages ordinaires et peut-être pas très intéressants, il leur confère l'éternité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue avec le travail du juge qui consiste à décrire la vie dans les catégories du juste et qui consiste à rendre le monde non pas plus beau, mais plus juste? Et finalement, est-ce que ce n'est pas la même chose, d'ailleurs, de rendre le monde plus beau et plus juste, c'est-à-dire de le rendre plus harmonieux, plus conforme à ce que nous voudrions qu'il soit?
Oui, il y a cette analogie, mais c'est distante, je crois. Parce que l'art, on peut voir quand Proust regarde les trois clochers de Martinville. Deux de Martinville, un d'un autre endroit, mais il les voit de son transport, et il regarde, il les voit ensemble, le soleil se couche, et il croit que c'est merveilleux. Mais comment est-ce que je peux le garder, cette vue? Et il décide qu'il peut écrire quelque chose. Et en écrire, en le transformant dans une forme plus permanente, l'écrit, il les garde, il crée quelque chose de beauté, il préserve ce qu'il y avait et il se satisfait comme être humain. Et maintenant, parce qu'il a créé quelque chose d'art. Et pour le juge,
parce qu'il a réduit le chaos, il a réduit le chaos du monde, ce que nous recevons comme un mélange indistingué de choses belles et de choses affreuses, il le transforme, il pénètre ce chaos, il leur donne des couleurs, des formes, et c'est ça finalement le travail de mise en forme du monde qui serait commun avec celui du juge.
Oui. Quand je sors de Proust. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi, que je crois que j'ai appris. Mais ce n'est pas Proust seul qui fait ça. C'est n'importe qui. N'importe qui entre dans un monde qui est un chaos. N'importe qui transforme ce chaos en quelque chose. L'homme n'est pas l'animal rationnel. L'homme est l'animal qui met forme, la forme en les choses. Et cette forme peut être le mieux ou pire. On peut avoir une cacophonie des camions, ou on pourrait avoir une symphonie de Brahms ou Louis Armstrong. Il y a des différences. Des différences entre des graffitis et un tableau. Et tout le monde a de nécessité, forme sa vie, forme le monde. Et pour les magistrats, je crois que vous avez la raison en dire que les magistrats cherchent de la justice, mais ça, c'est un appel humain. Ce n'est pas réservé aux magistrats. Mais les magistrats et les avocats et beaucoup des autres ont le devoir d'essayer de faire quelque chose dans le monde qui va, après un certain travail, apparaître plus juste. Ça, c'est l'objectif. Il réussit de temps en temps et échoue aussi, souvent.
C'est la définition de Justinien, finalement, de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est la volonté obstinée et constante de rendre à chacun le sien, ce qui lui revient. Finalement, la justice, c'est moins un état, à vous entendre, qu'un effort, permanent. Et ajoutez-vous, un effort qui est partagé, réparti entre nous tous, qui n'est pas que l'apanage des juges.
Oui, je suis d'accord.
Alors, il y a d'autres auteurs qui vous ont marqué. Je pense à Stendhal. Stendhal, lui aussi, est un auteur qui va chercher à pénétrer l'âme humaine.
Oui, mais il est tout à fait différent. Il a quelque chose, pour moi, un style qui est la clarté, absolument claire. Non, on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que cette clarté qu'on trouve en Stendhal? Personne ne peut expliquer exactement de quoi il consiste. Mais on lit un paragraphe et on trouve, ah, ça c'est clair. Clair en style, clair en forme, clair en sujet. Mais je ne sais pas ce que c'est que cette clarté. Mais je crois que Stendhal connaît très bien de la politique et des femmes. Donc, quand on lit la Chartreuse de Parme, c'est parfait, j'adore la Chartreuse de Parme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que personne n'a fait de Chartreuse de Pommes un opéra. Ce serait très bien avec...
Je ne sais pas si on a fait un opéra de Chartreuse de Pommes. Ce que je sais, c'est qu'il y a un professeur de sciences politiques italien à Bologne qui explique la politique italienne à partir de la Chartreuse de Pommes en disant, voilà, vous voulez comprendre la politique en Italie, il faut lire la Chartreuse de Pommes. C'est le meilleur manuel de sciences politiques italien.
Pourquoi italien?
Oui,
pourquoi la France, les États-Unis?
Tout à fait, bien sûr. Et si on continue dans votre panthéon intérieur des écrivains français, Stephen Breyer, il y a aussi, ou enfin, Camus.
Camus, il parle directement à moi. Je l'utilise, Camus, pour le mieux, pour le mal. Mais je l'utilise parce qu'il parle aussi directement au magistrat. Et quand je veux parler quand je parle ou j'ai une discussion ou peut-être une conférence avec des juges des autres pays, surtout maintenant les juges d'Afrique, les juges... J'ai parlé avec de la Magna Carta, avec un grand groupe des avocats américains et anglais. Après, il y a, par hasard, il y avait un magistrat suisse. Il a dit, mais vous parlez de Magna Carta, ça c'est un système pour un système anglo-common law. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de... J'ai dit, mais monsieur le juge, Camus dit la même chose. À la fin de la peste, que j'adore cette phrase, je l'ai citée 1000 fois. À la fin de la peste, pose la question. Rieux peut-être pose la question. Pourquoi est-ce que vous écrivez ce livre? Il a dit trois raisons. Je veux raconter l'histoire de ces peuples. Très bien. Je veux expliquer ce que c'est qu'un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui aide les autres sans théorie. Il le fait. Il ne le discute pas. Mais surtout parce que le bacillus de la peste ne meurt jamais. Il reste. Il reste dans les couloirs, dans les paperasses, dans les maisons, partout.
Dans les draps.
Dans les draps, oui. Très bien. Dans les draps. Et il reste pour un jour se réveiller. Et pour le malheur ou l'éducation des hommes, renvoyer ses rats dans une cité heureuse. Et j'explique au magistrat que nous ne sommes qu'une arme contre ce jour. La civilisation a décidé, la civilisation humaine, que nous, les juges, peut les aider. Ce n'est pas une garantie, certainement, mais c'est une autre arme contre le jour où le bacillus de la peste va se réveiller. Et ça, c'est universel. Universel. Et c'est vrai. Ça, c'est ce que vous appelez le cinquième office du juge.
Oui, et ça veut dire que aucun pays n'est immunisé contre ce bacille de la peste. Ça veut dire qu'il y a une dimension inéliminable de la violence et du dérèglement violent. Et le droit et les juges agiraient comme une sorte de vaccin permanent, mais malheureusement jamais définitif.
Oui, exactement, c'est ça. C'est bacille, c'est la mauvaise partie de la nature humaine. Et un vaccine marche de temps en temps et raté souvent. Et on voit de nos jours, et certainement dans le XXe siècle, des vraies horreurs. Et tout le monde dit, si vous cherchez l'explication, regardez dans la glace. Nous savons tout ça. Très bien, donc c'est pour ces raisons que je dis que les magistrats, l'État de droit, c'est une arme très faillible.
Mais c'est singulier que vous reteniez ce message de Camus, parce que Camus est aussi l'auteur de L'étranger. Camus est un auteur qui dénonce l'impossibilité de la justice. Qu'est-ce que c'est que L'étranger ? C'est finalement l'impossibilité de rendre justice à un acte qui n'a peut-être pas de sens, mais la justice non plus n'a pas de sens. Comment est-ce que le Camus, qui est l'auteur de L'étranger, peut-il inspirer un juge américain ?
L'étranger, c'était un commencement. Il était déçu certainement parce qu'un jour, il avait vu une exécution. Et il était tout à fait contre la peine de mort. Mais il connaît ce qu'on trouve de bien dans cette œuvre. Il connaît que, comme vous avez dit exactement, la justice n'est pas un état du monde. La justice est un effort. Et on ne va trouver jamais une justice parfaite. Parfaite, on peut, pour le mieux, on peut essayer. Et on cherche, on fait des... C'est comme, je dis, cette robe de Pénélope. La robe de Pénélope, elle le tisse le jour, elle le défait la nuit. Et voilà, nous, des juges, des avocats, des autres personnes qui ne sont pas des personnes de la politique, ils sont des ouvriers, ils sont la main d'œuvre dans un certain sens. Et ils peuvent travailler, persévérance, opiniâtreté, dans un certain sens. Il ne faut se rendre jamais, on continue. Et je crois que ça, c'est Camus. Camus, il voit la situation humaine qui est difficile, bien difficile, et on fait son mieux.
Vous prenez la métaphore du tissu, la toile de Pénélope, la tapisserie de Pénélope. Est-ce que ça veut dire que finalement les juges cherchent à retisser le monde par leurs précédents, donnant de la cohérence, donnant une forme qui est celle de la tapisserie ? Est-ce que ça veut dire qu'un jour on pourrait rêver, Stephen Breyer, est-ce qu'on pourrait rêver à un droit mondial, un droit où chaque juge du monde contribuerait par sa décision à faire une sorte de common law mondial comme l'espérait Ronald Dworkin?
Cela, on ne sait jamais. S'il y a mondial un droit, ça va après un temps si long que je ne peux pas même l'imaginer. Mais il y a de plus en plus certainement les problèmes de commerce, les problèmes de droits de l'homme, les problèmes de la démocratie, les problèmes de la paix, les problèmes dans un monde avec un Internet tout le monde communique chaque 5 secondes et chaque chose change toutes les secondes. Donc, dans un monde comme ça, il y a de plus en plus des problèmes qui sont dehors des frontières d'un seul pays. Donc, la nécessité du monde et non pas les volontés des juges ou les philosophies des juges, c'est la situation du monde qui exige une coopération juridique. Donc, il y aura un certain endroit, pas tout le monde, mais endroit, par exemple, coopération entre, par exemple, l'Union européenne, les États-Unis, Canada, etc. Et peut-être il y aura quelques autres configurations pour quelques autres problèmes, quelque autre part. Mais ce qui est vrai de toutes ces choses, qu'il exige aussi une plus grande connaissance par des magistrats, par des avocats, et par des personnes qui ne sont ni l'un ni l'autre, une connaissance de ce qui arrive de hors des frontières.
Donc vous prenez une sorte de cosmopolitisme par le bas. Vous citiez Kant tout à l'heure, Kant qui avait un rêve cosmopolitique dans son traité de paix éternel, son traité de paix perpétuel.
Ça, c'est Kant.
Ça, c'est Kant, voilà.
Je suis satisfait avec beaucoup moins.
C'est ça. Et vous, finalement, ce que vous espérez, c'est peut-être votre vœu, Stephen Breyer. Quel serait votre vœu pour l'avenir de la justice? Ne parlons que des États-Unis pour l'instant. Est-ce que vous avez un vœu à formuler?
Pas une formulée. Je travaille. Et comme tout le monde qui travaille, on veut voir une amélioration. Et de temps en temps, ça n'arrive pas. Et de temps en temps, on reçoit une bonne surprise. C'est arrivé un peu.
Vous êtes vraiment un pragmatique, alors.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça.
En ce qui concerne l'amélioration du droit et de la justice, d'ailleurs, je remarque qu'on n'avait pas répondu à la question sur les law schools. Est-ce qu'il n'y a pas une autre éducation à la justice à faire de la part des universités? Est-ce que dans la formation des juristes, il n'y aurait pas une...
Oui, je voudrais bien dans cette formation que les juristes, par exemple, apprennent plus de l'économie.
Est-ce qu'ils ne devraient pas apprendre
peut-être la statistique.
Mais est-ce qu'ils ne devraient pas apprendre plus aussi de Proust et de Camus, Stephen Breyer?
Ah, bien sûr. Je dis ça avant qu'ils entrent à l'école de droit, parce que c'est un sujet gradué aux États-Unis. On me pose des questions, qu'est-ce que j'étudie? Autant qu'il ne soit pas le droit. Et pourquoi? Parce que vous aurez le droit dans l'école de droit. Mais avant ça, il vaut mieux d'étudier l'humanisme, les études, des études de la littérature, de l'histoire, géographie, pour que vous saviez où vous êtes dans le temps, où vous êtes
dans
le monde. Oui, et littérature est une langue étrangère, parce que vous n'avez qu'une seule vie. Une seule vie, mais avec la littérature, vous avez la possibilité d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre que vous. Peut-être plusieurs choses, peut-être plusieurs personnes, et avec le français, par exemple. Pour moi, c'est une grande possibilité pour moi d'apprendre quelque chose d'une civilisation avec des valeurs similaires, mais avec un point de vue, avec une culture bien différente. Et si vous êtes enfin avocat, je dis aux étudiants, ou juge, absolument nécessaire, vous êtes dans une salle, une chambre, vous n'avez rien avec vous que peut-être une seule assistante, peut-être des dossiers, très secs, les dossiers, et peut-être un ordinateur. Confusante, les ordinateurs. Mais en tout cas, avec cela, il faut que vous imaginiez la vie des personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Parce que les décisions que vous faites vont les affecter. Donc, il faut connaître les vies des autres. Donc, étudiez les humanités.
Eh bien, Stephen Breyer, merci beaucoup pour cette série d'entretiens.
C'était À voix nue, fin de cette rencontre entre Antoine Garapon et Stéphane Breyer. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas et Marc Garvanès, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.